Gloire à Dieu. On continue notre belle petite étude sur la prière. On continue encore d'un point où on est rendu dans cette étude-là sur les empêchements aux exaucements de prière. Je pense qu'on est rendu au huitième point. Le point qu'on regarde ce soir, c'est faire des prières, mais en doutant, avec des doutes. Ça, c'est un autre obstacle à nos prières. C'est demander des prières, c'est demander à Dieu en doutant qu'on va l'obtenir, en doutant que Dieu veut le donner, en doutant, parce qu'on n'est pas sûr, là. On pense que, ouais, mais peut-être que Dieu veut pas nous le donner. Puis là, si tu penses de même, c'est sûr que tu l'auras pas. Puis, pour être franc, là, ça l'arrive souvent qu'on prie comme cela. Première chose qu'on doit se dire, c'est que la prière, là, on doit croire que c'est Dieu qui nous a demandé, c'est Dieu qui nous a invité à prier. C'est pas qu'on cherche à imposer quelque chose à Dieu. Le fait de penser, ouais, mais c'est Dieu qui me demande que je prie, donc il doit vouloir exaucer. Si ça devrait nous aider à enlever les doutes. Quand Jésus a dit dans Jean 16, 24, « Et jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Ça, c'est un verset, mais il y en a plein de versets qui nous dit de prier, d'aller à Dieu puis de demander. Mais l'humain, à la manière qu'on est, humainement parlant, on doute, on n'est pas sûr, on croit pas que ça va arriver. Puis ça, le doute, ça met des obstacles dans nos prières. Il y a un pas de plus que de dire des prières, parce que dire des prières, ça, il y a plein de monde qui en dit des prières, mais c'est de demander des prières sans douter. C'est, dans un sens, c'est d'avoir confiance que Dieu veut qu'on prie puis que Dieu veut exaucer. Dans Jacques, dans le chapitre 1, verset 5, il dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, puis elle lui sera donnée. » Ça veut dire que tu as juste à demander à Dieu. Il dit, il donne à tous simplement puis sans reproche, ça va lui être donné. Tu demandes de la sagesse, Dieu veut qu'on ait de la sagesse, il va nous donner. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Pourquoi que Jacques dit ça? Parce qu'il sait que souvent on demande, mais on n'est pas sûr, on croit pas réellement que Dieu veut nous le donner. Tu veux être exaucé, même si c'est des choses que Dieu veut que t'aies. Comme là, la sagesse, là, il n'y a pas de doute, Dieu veut que tous ses enfants soient sages. Mais si on le demande pis on doute, même si Dieu voulait nous la donner, il nous la donnera pas. Parce qu'il exige qu'on présente nos requêtes avec foi. Sans douter. Car celui qui doute, il est semblable au flot de la mer agité par le vent, puis poussé d'un côté et d'autre. Il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Hey, c'est fort, ça veut dire que tu peux demander des choses au Seigneur, puis imagine-toi pas d'être exaucé, parce que s'il y a du doute dans ta requête, même si c'est des choses que Dieu voulait donner, il dit, il nous le donnera pas, parce que notre problème, c'est notre état intérieur. On est un homme irrésolu, inconstant. On n'a pas de constance, on n'a pas de résolution. Faire des résolutions, c'est que je la veux, la sagesse. Une résolution, c'est quelque chose que tu décides. Au jour de l'an, le monde, ça, c'est quelque chose que le monde pratique, mais tu vois que ça, de 3-4 jours après, on y pense même plus à ce qu'on avait résolu. Puis c'est ça des gens inconstants, des gens irrésolus. Même si tu prends une journée une résolution, le lendemain, tu n'y penses plus. Puis là, si tu veux avoir la sagesse, faut que tu la demandes, puis tu sois résolu de la vouloir. Tu demandes à Dieu qui donne à tous, puis il faut que tu saves que Dieu donne à tous. Puis Dieu, il nous a appelés à prier pour lui demander de la sagesse ou demander des autres points qui sont écrits. Puis on n'a pas à douter, mais si on n'est pas résolu, puis on n'est pas constant à continuer à le demander, ce constant, ça veut dire persévérer, continuer à le demander tant qu'on ne voit pas qu'il y ait du résultat, Puis, d'après moi, je pense que la sagesse, il faut en demander toute notre vie, parce que même en vieillissant, Salomon, c'était celui qui n'avait le plus, puis à la fin de sa vie, il n'avait plus de sagesse. Il était rendu à genoux d'un temple d'idole. Fait qu'il a perdu la sagesse de Dieu. Ça veut dire que ça se gagne parce que Dieu la donne, mais ça se perd aussi. Fait que faut vraiment être toujours dans une recherche d'être sage devant Dieu. Puis ça, pour l'avoir, il faut que tu le demandes au Seigneur, parce que ça vient de lui, la sagesse d'en haut, pas la sagesse charnelle. La sagesse d'en haut est donnée par le Saint-Esprit. Mais quand on parle de doute, on le sait que le diable, c'est un spécialiste pour semer le doute. Il est rusé, puis il travaille depuis le début de la création. Il l'a fait avec Adam et Ève dans Genèse 3:1. Ça dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Là, il est comme imagé comme un animal des champs, mais c'était pas un animal des champs comme tel. C'est un animal spirituel. C'est une créature que Dieu avait créée dans les lieux célestes. C'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, peut-être extrêmement rusé. La ruse, là, c'est être capable d'analyser les situations pour trouver soit des réponses à tes problèmes ou trouver des points faibles, puis d'arriver par en arrière, puis de rentrer dedans dans quelqu'un que tu veux rentrer dedans. Mais le diable, lui, ça dit, il était le plus rusé que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? En disant ça, il l'a tout déstabilisé. Parce qu'elle n'était pas là quand Dieu a dit ça à Adam. Elle a été créée après. Fait qu'elle a reçu le commandement face à que son mari a dit, mais elle n'était pas là. Fait qu'en disant, Dieu a-tu réellement dit? Je sais pas, je n'étais pas là. Fait qu'il savait où y dire une parole qui lui mettait du doute. Qui fait qu'après ça, elle a répondu, mais avec une phrase modifiée. C'est ça qui est pas juste pour Adam et Ève, là. Beaucoup de chrétiens rentrent pas à 100% dans ce que Dieu a demandé par rapport le doute, par rapport qu'on est mêlé, par rapport qu'on n'arrive plus à remettre nos idées en place à cause de qu'il y a quelque chose qui nous a déstabilisé, puis c'est ce qui est arrivé là à Adam et Ève. Puis ça, c'est le diable qui fait ça. Mais il n'y a pas juste le diable qui sème le doute en nous, qui va faire qu'on va manquer de foi, qu'on va douter. Jésus a répondu à ses disciples qu'il y avait une autre chose qui fait ça. Dans Matthieu 17, le verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus puis lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » Pourtant, Jésus leur avait dit, « J'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. » Puis ils n'ont pas chassé ce démon-là. Puis là, il demande à Jésus, c'est à cause de quoi qu'on n'a pas été capable de chasser ce démon-là? C'est pas le diable qui lui a mis des doutes dans la tête. Ce coup-là, ça dit, au verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. L'incrédulité, c'est le contraire de la crédibilité. L'incrédulité, c'est le contraire de la croyance, c'est le contraire de la foi. C'est de pas croire. Fait que c'est pas qu'il y a du doute, mais pas croire, c'est aussi pire que du doute. Parce que Jésus nous a dit, prie, puis tu vas être exaucé. Puis si on croit pas, c'est pas nécessairement que le diable nous a mis un doute. Oui, le diable peut en mettre des doutes, mais c'est aussi notre niveau de foi face à ce que Dieu a dit. C'est pas nécessairement le diable qui déstabilise tout le temps. C'est qu'on travaille pas assez pour que notre foi soit bâtie. On travaille pas pour que notre foi soit plus forte. Tu sais? Il dit, à cause de votre incrédulité que dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Ça, c'est Jésus qui dit ça. Ça, ça met du punch comme pour augmenter la foi. Sauf qu'il faut rentrer là-dedans. Pourtant, la parole est dans nos mains pour connaître ce qui est de sa volonté. Parce qu'on se le dit, si on croit que Dieu va exaucer, là, parce que ça le dit dans 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. On a une confiance avec ce verset-là. Si tu es sûr que ce que tu es en train de demander, c'est selon sa volonté, crois que Dieu t'écoute. On n'a pas le droit de penser que Dieu n'écoute pas ça, parce que c'est dit qu'il te le dit dans la parole qu'il va te le donner, cette chose-là, si tu la demandes. Il veut que tu la demandes. Donc, on n'a pas le droit de penser qu'il ne veut pas nous la donner. S'il a dit dans la Bible « demander telle chose », ça veut dire qu'il veut donner telle chose. Tiens, amen. S'il veut donner cette chose-là, on n'a pas le droit de penser que ça ne marchera pas et qu'il ne voudra pas. Donc, si on pense demain, c'est de l'incrédulité. On a des doutes. Soit que l'ennemi nous a mis des doutes, ou soit que notre foi est trop faible pour présenter une prière avec confiance, avec foi, sachant que Dieu nous écoute parce que c'est selon sa volonté. Jésus s'étonne qu'après avoir dit quelque chose, les gens se laissent entrer dans le doute en regardant autour d'eux plutôt que de regarder à lui. Jésus est étonné il dit des affaires à ses apôtres, là, puis il venait de le dire, puis là, ils ont commencé à regarder autour, puis à la place, puis ça les a distraits, puis ils ont manqué de foi. Pourtant, il venait de le dire, de le faire, mais ça, c'est dans l'exemple dans Matthieu 14, 29. Quand Jésus a parlé à Pierre, il était sur l'eau, là, dans la chaloupe. Puis là, Pierre demande, « Seigneur, si c'est toi qui es en train de marcher sur l'eau, permets que j'y aille te rejoindre. » Il voulait y aller. Puis Jésus, il a dit, « Viens, Pierre, viens. » Fait que Jésus venait de dire, « Viens. » Il n'y a pas de raison de penser que ça ne marchera pas. Mais il a commencé à marcher. Il sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus, c'est extraordinaire. Mais, voyant que le vent est à contraire, là, il a commencé à considérer ce qu'il y avait autour. Il vente pas mal, il y a des vagues, il y avait déjà des potes faites sur l'eau, imagine-toi, le miracle. Il s'était accompli un bout. Puis là, il a vu que le vent était fort, il a eu peur, puis là, il a commencé à enfoncer. Puis il s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit, puis lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Faut pas penser qu'on aurait fait mieux. Là. Les autres ont tout resté dans la chaloupe, mais il y a un Pierre qui avait dit, « Je veux y aller », puis là, il a dit, « Viens. » Mais si les autres l'auraient dit, il aurait pu tout l'essayer. Là, il a dit, « Pourquoi as-tu douté? » Parce que Jésus, il avait dit, « Viens. » Il n'y a pas de raison de penser que ça ne marcherait pas. Mais ce qu'il a pensé, en regardant les autres choses, ça l'a déstabilisé dans sa foi. Il aurait dû rester focus. Jésus me dit d'y aller, ça va marcher. Si tu restes focus sur qu'est-ce que Jésus a dit, parce que Jésus, il dit quoi, puis qu'est-ce qu'il dit, c'est vrai, c'est Jésus. Fait que tu pars avec qu'est-ce que Jésus a dit, il n'y a pas de raison de douter. Sinon, c'est comme tout le reste des autres promesses, nous dire qu'on a la vie éternelle, puis si on y croit pas qu'on a la vie éternelle en Jésus, puis on laisse le diable nous rentrer dedans, puis nous mettre des doutes, dire qu'on n'est pas sauvé, puis qu'on est perdu, puis qu'on sait pas où qu'on n'a pas d'assurance, on n'a pas de confiance, on n'a pas de repos en Jésus, parce qu'on a de la misère à croire. Mais un chrétien devrait être ferme, puis il sait que la victoire est à cause du sang de Jésus, c'est pas à cause de tes mérites. Puis si tu mets ta confiance là-dedans, tu sais que tu vas te rendre. Mais les autres promesses, c'est la même affaire. S'il a dit quoi, c'est ça. Prier par la foi, c'est prier avec conviction. Dieu veut accorder les choses qui sont conformes à sa volonté. Dieu veut et il doit nous conduire dans tout cela. Regardez bien le prochain verset, il est hot, dans Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses que t'espères. Mettons, on parle du salut. Avez-vous la ferme assurance que vous êtes sauvé par Jésus? Que vous l'êtes sauvé là. C'est une ferme confiance qu'on a, on le sait qu'on l'a. Mais toutes les promesses, c'est la même affaire. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on voit pas. Parce que tu le crois tellement que tu le vis. Hein? Mais le verset 2, il est important, on le lit pas souvent. Cette foi-là, ferme, inébranlable, pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Qu'est-ce qu'il veut nous dire là? Ça veut dire que tous ceux que tu vois des hommes de foi de l'Ancien Testament qui ont vécu la foi ferme assurance puis qui ont vécu des miracles, pour qu'ils aient cette foi-là, Dieu leur a donné un témoignage favorable. Dieu a fait quelque chose pour les amener là. Parce que humainement parlant, ils n'auraient pas pu faire ce qu'ils ont fait si ce ne sera pas Dieu qui leur a donné ce don-là, de don de foi, avec la puissance qui va avec pour pouvoir que ça s'accomplisse. Parce que c'est bien beau de dire, au nom de Jésus, si la puissance de Dieu n'est pas là, ça ne se manifeste pas. Donc, il fallait que Dieu fasse des témoignages favorables envers eux, puis qu'ils bâtissent leur foi, pour qu'eux autres marchent dans cette ferme assurance-là. Puis c'est la même chose pour nous. Il faut que Dieu nous conduise dans cette foi-là. Sinon, on n'y arrivera pas, humainement parlant. Faut que Dieu fasse un témoignage favorable pour nous, pour qu'il nous parle, qu'il nous montre des choses, qu'il nous instruit, qu'il nous forme, pour nous amener dans cette foi-là qui est inébranlable pour les miracles puis tout le kit. Sinon, si on l'a pas, on va continuer à présenter des prières, pas sûr, peut-être, on espère, un jour peut-être, tu sais, ou on remet ça à la fin, on verra à la fin, on se rendra. Pour la vie éternelle, ça, on n'a pas de doute, mais pour obtenir des guérisons, des délivrances, voir la puissance de Dieu dans des miracles, ça prend de la foi. Puis le don de la foi vient d'un des dons spirituels du Saint-Esprit. Il faut que le Seigneur nous conduise pour rentrer dans ce don-là, pour présenter des prières de foi avec une ferme assurance, puis être convaincu, une démonstration de ce qu'on croit. La foi, c'est de savoir que je suis écouté par Dieu. Et si je sais qu'il m'écoute, je sais que je serai exaucé. C'est de savoir que Dieu est en train de nous écouter. C'est ça que ça dit le prochain verset. Dans 1 Jean 5,15, si nous savons qu'il nous écoute, si je sais qu'il m'écoute quand je suis en train de demander, je sais que je suis devant Dieu, je sais qu'il est en train d'écouter, ses oreilles sont attentives à mes prières, je sais qu'il m'écoute, si je présente une requête selon sa volonté, je sais qu'il m'écoute. C'est ça que ça dit. Il fait qu'il n'y a pas de place pour le doute si tu sais qu'il t'écoute, parce que tu sais que c'est selon sa volonté. Il dit, et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous l'avons demandé. Fait qu'il avait une confiance que si je sais qu'il m'écoute, je sais que je vais être exaucé. C'est de même que ça marche. C'est ça la foi que les versets enseignent. Prier avec foi, c'est de déclarer, de confesser, de proclamer d'avance ce qu'on croit. On croit, en fin de compte, que Dieu va faire les choses en réponse à nos prières. Puis pas confesser le contraire, bien sûr, parce que souvent, en parlant tout de suite après, « Ouais, mais peut-être que on croit plus qu'on va l'avoir, de la manière qu'on parle, mais c'est sûr que là, ça vient de tout défaire ce qu'on croyait. » Tu ne voyais pas Jésus dire à l'arbre, maudire l'arbre pour qu'il sèche, puis après, ah, t'as minute, je suis pas sûr, là, puis là, peut-être que ça marchera. Il n'a pas dit ça. Tu ne voyais pas jamais dire que Jésus doute dans sa phrase. Nous autres avec, il ne faut pas être comme cela. Là. Dans Marc 11, 22, Jésus prit la parole et dit, ayez foi en Dieu. Ça, là, ça veut dire que c'est pas nous qui exauce. C'est pas nous qui fait le miracle. C'est pas nous qui, c'est pas de notre puissance ou par notre propre piété qui va rendre la vie à quelqu'un. C'est Dieu qui fait la chose. Le Seigneur confirmait la parole par les signes. C'est l'accompagnement du Seigneur qui t'écoute, puis qui fait, il t'aide, puis c'est lui qui le fait. Souvent, on pense que ça vient de nous, puis on cherche à pousser comme si ça serait nous, qu'on pense qu'on est en train d'y donner. C'est pas ça. C'est pas la foi en nous, c'est la foi en Dieu, le Saint-Esprit, Jésus, qui fait l'affaire. C'est pas nous. Nous, là, on a juste besoin de demander sans douter, puis c'est avoir confiance que Dieu va faire la chose. Jésus prit la parole, il leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Fait que notre confiance dans la prière, c'est de croire que Dieu y écoute. Puis si Dieu écoute quelque chose qu'on demande, qui est selon sa volonté, il nous dit de prier pour ça. S'il nous dit de prier pour ça, puis je sais qu'il m'écoute, je sais qu'il va le faire. Donc j'ai foi en Dieu qui va le faire. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, puis s'il ne doute point en son cœur, c'est là le point que je disais tantôt, le doute ou l'incrédulité dans notre cœur. Si on doute pas, mais tu crois que ce que tu dis arrive, tu vas le voir s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis. Puis là, il rajoute pour expliquer ce qu'il voulait en venir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, puis vous le verrez s'accomplir. Pas de place pour le doute. Pas de place pour le doute. Puis tu as une ferme confiance que tu es en train de demander quelque chose, puis que Dieu est en train de t'écouter. C'est ça, faut que tu penses. Puis si tu sais qu'il t'écoute, tu as foi en Dieu que Dieu va le faire. C'est la foi en Dieu qui fait les choses, c'est pas nous qui avons ce pouvoir-là dans notre chair. C'est l'Esprit de Dieu qui va passer à travers de nous, mais il va répondre en réponse de notre confiance qu'on a. Nous pouvons imiter les exemples de la parole de Dieu afin de recevoir comme eux ils ont reçu. Dans Jacques 5, 17, ça nous parle de Élie, qui est un homme de même nature que nous. C'est un gars ordinaire comme nous autres. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, puis il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Voyez-vous? C'est un gars comme nous, de la même nature que nous, mais il croyait que Dieu était capable. Il a prié instamment, puis Dieu l'a écouté. Même chose au sujet des promesses de Dieu, il faut faire comme Abraham, dans Romains 4, 17. Selon ce qui est écrit, ça c'est une promesse que Dieu avait donnée à Abraham. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Puis il avait il avait même pas d'enfant quand ça s'est arrivé. Puis après ça, il en a eu un, puis c'était avec la servante parce qu'il cherchait des raccourcis. Mais quand il a eu ça, il dit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Puis il dit, « Il est notre père devant celui auquel il a cru. » Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Parce que Dieu, il appelle les choses qui n'existent pas comme si ça existe. Tard. Quand il a créé l'univers, il n'y avait rien, puis tout s'est mis en place quand il a ordonné que ça soit là. Dieu est tout puissant. Fait que, au verset 18, il dit, espérant contre toute espérance, il crut. Parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus le choix, là. Il y avait son fils, selon la promesse, puis Dieu lui a demandé de le tuer, de le mettre à mort. Puis là, il a espéré, même s'il n'y avait pas d'espérance. En premier, il avait 99 ans quand il a eu sa promesse bien avant, là. Il a attendu des années avant que son enfant vienne au monde. Il a 99 quand il a eu l'enfant de la postérité. Fait que c'était contraire à la logique d'attendre, dans ce temps-là, d'avoir un enfant. Lui, il a continué, il a cru, même contre toute espérance. Il a espéré, même s'il n'y avait pas d'espoir. C'est ça qui est le point. C'est qu'il n'a pas regardé aux circonstances. « Oh, je suis rendu à 92, 94, 96, puis j'ai pas d'enfant. » Puis de commencer à douter sa promesse. Il a continué à garder la promesse. Puis ça a pris des années avant que ça s'accomplisse. Il crut, puis il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, « Telle sera ta postérité. » Au verset 19, ça continue, sa foi a été mise à l'épreuve encore. « Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. » Son corps était déjà usé. Il n'était plus normalement en état d'avoir des enfants. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants à 90 ans, ça fait longtemps qu'elle était ménopausée. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, puis ayant une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Si Dieu a promis quelque chose, il est capable de l'accomplir, même si toutes les circonstances sont à l'envers. Qu'il n'y aura aucune chance que ça arrive. Il faut avoir une foi à un point qu'on s'attend à ce qu'il fasse parce qu'il l'a promis, même si tout est contre nous autres. Y a-t-il un amen à cela? C'est tout ça qu'on veut. Il faut laisser Dieu nous conduire là-dedans. Les anciens, pour avoir cette foi-là, comme j'ai dit tantôt, c'est ce verset-là qui est vraiment le verset clé pour que ce que je crois. Or, la foi, c'est une ferme, ça c'est Hébreux 11, 1 et 2, là. La foi, c'est une ferme assurance des choses que t'espères. T'as une ferme assurance, t'espères. Il t'a fait une promesse, tu l'espères, même si tout est contre toi. Puis là, au verset 2, il dit, pour l'avoir possédé, cette fois-là, les anciens ont reçu un témoignage favorable. Ça veut dire qu'il a fallu que Dieu leur donne un témoignage favorable pour pouvoir posséder cette foi-là. Fallait que Dieu fasse de quoi autour pour les bâtir dans cette foi, pour les amener à ce qu'ils puissent avoir cette foi-là. Quand il a frappé l'eau puis que l'eau s'est séparée, là, il a fallu que Dieu le prépare à ça. Pas juste avec Moïse, là, avec Élie, puis avec Élisée, puis avec Josué. Il n'y a plus qu'un qui ont vécu ça. Il y en a quatre au moins qu'on voit dans la Bible qui ont vécu ça, que l'eau s'est séparée. Ça, c'est à part quand les miracles de Jésus, c'est la même affaire. Il vivait dans une foi qui est pas naturelle. Oui, ça dépasse l'intelligence, puis ça dépassait les lois de la nature. Il était capable d'espérer même des choses contre nature. Marcher sur l'eau, là, c'est pas naturel pantoute. Il fallait pas qu'il pense naturel. Sinon, il est comme Pierre. Puis tu penses naturel, oh, il y a du vent, puis il y a de la vague, puis là, je suis sur l'eau, mais là, il a coulé. Mais faut que tu rentres dans cette dimension-là, faut laisser Dieu nous conduire là-dedans pour faire des prières avec foi, sans douter. Amen. On va s'en aller dans les prières tantôt. Essayons de penser que quand on prie, Dieu est en train de nous écouter. Si nous savons que si Dieu nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ça veut dire qu'il faut se concentrer qu'on est devant Dieu, en train de parler à Dieu, puis que Dieu est en train de nous écouter. Parce qu'on demande des choses selon sa volonté. Amen.